Dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Être militant dans la vie, c'est déjà être militant de la vie, pour la vie. Donc, c'est se bouger les fesses, c'est voir les choses, essayer d'en inventer, trouver des chemins et tout ça. Et c'est la vie, quoi. Voilà, il ne faut pas rester assis sur regarder passer les choses. Il faut y aller. Tant pis, on se trompe des fois. Hein, on se trompe. Hein. Si on le fait avec humanité, enfin, dans l'idée de se grandir et de faire grandir, moi je crois qu'on ne peut pas se tromper de beaucoup.
Bonjour, ce mois-ci, Dissonance va pointer son micro vers la langue occitane. À travers l'itinéraire d'Yves Durand, enfant du pays, nous découvrirons ensemble comment il s'en est emparé pour la faire revivre à travers sa profession de comédien et de conteur. Mais la faire vivre, non pas de manière intégriste, plutôt d'une manière ouverte, balayant les frontières linguistiques allant d'une culture à l'autre.
Ne soyez pas des régionalistes. Les endroits de vos rencontres porteront les noms de vos amours. Mais soyez de votre région. Vous n'appartenez pas à un lieu. Il n'existe de lieu que pour les esclaves. Vous n'êtes pas cette terre languedocienne, mais le don de cette terre à la patrie humaine. Joël Bousquet.
Aujourd'hui, pendant une heure, il sera question de modernisme, de militantisme aussi, et d'ouverture aux autres.
En fin d'émission, nous retrouverons Elsa Dauphin et sa chronique poélytique.
Et ça fait trois spectacles qu'on fait sur... on se disait, chaque fois c'est sur des indésirables, enfin, ou les gens qui n'ont rien pour... Et voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, il y a cette idée-là. Il y a cette idée derrière. Voilà. Et sans ces gens-là, le monde ne serait pas comme il est. C'est des gens qui amènent le monde, quoi, aussi.
Aujourd'hui, il sera question de vie et de violence, mais aussi de poésie, de légende, de dames de pierre, de Molière, d'art brut.
Autant de thèmes abordés avec Yves Durand, poète, comédien, conteur, mais aussi parfois musicien. La preuve, en écoutant aussitôt cette chanson interprétée par le Macarel Show et dont il a signé « Dans une autre vie », nous dirait-il, la musique.
In labilo de Toulouse, al pais dell'abricot rosso, ya vio lu grade mil, l'umil, l'umil, l'umilias, fan tu paro lu caizu, che hai chi condebu, nin monus tal picciu, hai un bun baricu. Al país de Fialdes y a Biolu Marcensi, que ropla de gurdi, hay set de pelumati, hay set, hay fach de cami, tambal un pla de millas, qu'un cop de bastus es lunas.
Dissonance,
Yves Durand,
sur Radio Centrafrique.
Bonjour, je m'appelle Yves Durand, je suis né en 1961, en décembre, en plein hiver. Au mois le plus froid de l'année, on pourrait dire. Et je suis né à Saint-Juéry-le-Château, c'est pas très loin d'ici, donc dans une petite ferme. Mes parents étaient paysans, je suis né là, famille de 8 enfants, donc famille nombreuse, famille heureuse. Et voilà, j'étais à l'école au village, j'ai été au collège à Saint-Afrique, comme beaucoup d'enfants d'ici. Je suis parti à Descazeville au lycée, ensuite, à Descazeville, j'ai fait une formation de mécanique générale, Donc pas du tout dans ce que je fais actuellement, comme quoi la mécanique mène à tout. Hein. Donc après le lycée, je suis venu, j'ai travaillé, donc je suis rentré dans la vie active. Tout d'abord comme pompiste, c'est très comme pompiste à Saint-Afrique, en face de l'hôpital. Et puis après mécanicien dans une entreprise de travaux publics ici à Montlore pendant un an et demi. Puis après je suis parti, enfin j'étais appelé en tant que patriote. À l'époque il y avait encore le service militaire. Bon, moi j'ai refusé, j'ai écrit à François Mitterrand en lui disant que je voulais pas faire l'armée, et donc j'ai demandé le statut d'objecteur de conscience, que j'ai fait donc une première année à l'Office national des forêts en Ariège, et puis la deuxième année, puisque c'était 2 ans, j'ai fait mon service civil ici à Coupiac, au château de Coupiac, où là j'ai rencontré un peu le monde, c'est-à-dire que c'était le château, donc en pleine restauration, 82, 83, et il y avait des chantiers internationaux, c'était l'association Concordia qui s'occupait de ça, en relation avec l'association des Amis du Château de Coupiac. Et donc là, je peux dire que j'ai rencontré le monde, là, c'est-à-dire que j'ai rencontré plein de gens de mon âge, donc qui venaient faire des chantiers. Donc voilà, le monde est venu à moi, et finalement, c'est un peu ça ma définition, enfin, mon voyage à moi. Il est un peu là, c'est pas moi qui suis allé voir, enfin, je me suis pas déplacé physiquement voir le monde, mais le monde est souvent venu à moi. C'est-à-dire que je rencontre pas mal de gens, mais c'est souvent ma position, je sais pas pourquoi, mais voilà, je me suis assis sur le bon banc, ou je sais pas, mais voilà. Donc j'ai rencontré pas mal de monde, et donc ça a ouvert des choses. Hein. Je dis pas que les choses étaient fermées, loin de là, hein, c'est pas parce que. Mais voilà, j'ai vu des choses un peu différemment. Et notamment peut-être aussi cette idée de prendre conscience de l'endroit où je suis né, de l'endroit où je vis, puisque je vis là où je suis né. Bah, voilà, c'est le petit oiseau qui, finalement, j'ai changé de branche, mais pas d'arbre, quoi, parce que ça me plaît bien, voilà, parce que c'est, et moi, c'est pour ça, peut-être aussi, que quand des gens viennent habiter ici et qui trouvent la région jolie, je suis d'accord avec eux, et que souvent, je lis facilement amitié avec des gens qui viennent de l'extérieur, peut-être plus qu'avec des gens qui sont d'ici, mais c'est parce qu'on est d'accord là-dessus, c'est que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, ce coin de terre, moi je le trouve joli, beau, et puis il est profond. Enfin, après, c'est peut-être ça aussi qui fait que, quand on parle du côté, enfin, toute ma création, ou le travail qui est artistique, hein, il est là aussi, c'est parce que la terre est profonde, et faut aller chercher les cailloux qui nous disent des choses, voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Hein.
Cuore stanco offre d'amor ne capisce, perdita valdia la pregondo, i va ne gamma se. Dillo miral dell'aio fresco, tranto lo sogno e il blu. No consuma un resco, son ei mees de fe. In o figlio meraviglioso, se mira lì alla fond, d'ingaran estant amoroso, li canta de canzos. Dillo miral dell'aio fresco, tanto lo sogno è il blu, e li canti no consuma un resco, son e me es de fi.
Cuore
Dissonance,
Yves Durand,
sur Radio Centrafrique.
Alors, au départ, monter sur la scène, ce qui m'a donné envie de monter sur les planches, c'est tout bête, hein. C'est la nuit, en gros. Enfin, une sorte d'ennui, c'est-à-dire que... Enfin, c'est souvent, on dit que les enfants, il faut qu'ils s'ennuient pour pouvoir faire travailler l'imaginaire et inventer les choses. Donc, ouais, une sorte d'ennui, c'est-à-dire que j'ai fait un peu de foot, mais très peu. On m'appelait le Bartassier. En occitan, le Bartassier, c'est celui qui est toujours dans les buissons. Donc, j'allais plutôt chercher les ballons en dehors du terrain, parce que je les envoyais plutôt en dehors du terrain que dans les cages du goal. Donc, j'ai fait ça un peu, voilà. Mais il se trouve que à Montclar, là, il y avait des enseignants, Claude et Chantal, des amis, Claude Azemar, Chantal Soulier, qui s'était dit, tiens, ce serait intéressant de monter pour s'amuser, comme ça on va faire des petits sketchs ou des petits se retrouver comme ça le samedi ou le dimanche. Et on a monté une petite compagnie de théâtre, et puis petit à petit on s'est pris au jeu. Alors, moi j'avais 22 ans, et j'y suis allé, et je me suis plu, et petit à petit comme ça on a travaillé, on a commencé à faire du sketch, à monter quelques petites scénettes, et puis voilà, on était tous assez sensibles à la question occitane, hein, la langue, la culture, le pays, tout ça. Donc on a vite travaillé avec un ancien prof qui était à la fois prof de français et d'occitan, c'était Yves Couderc, qui était à Sainte-Afrique. Moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... m'a marqué, quoi, et voilà, il y a des gens comme ça qui marquent dans la vie. J'en ai d'autres personnes qui m'ont marqué, à Martrain aussi, voilà. Et puis, vite, on a éprouvé l'envie de travailler un peu plus sérieusement. Donc, on a fait appel à un professionnel, c'était Bernard Coapé, du théâtre Comédia des Locs, qui nous a aidé à faire à la mise en scène de spectacles, et à nous faire travailler aussi, hein, sur le jeu du comédien et tout ça. Donc on a travaillé avec lui, et moi c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard, et c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre en professionnel. C'est-à-dire qu'un jour, Bernard qui avait monté il travaillait à Nocel, il a monté une pièce qui s'appelait Une ferme en trop de Yves Garrick, qui était journaliste à France 3, et qui traitait des problèmes, la problématique du monde rural, des fermes qui se ferment, voilà, des fermes qui se ferment, voilà, qui plient, de cette désertion de ce monde, avec cette politique agricole qui fait que ça désertifie, les jeunes qui ne peuvent pas rester, et tout ça. Donc, un texte qui avait bien percuté, puisque cette pièce, il l'avait jouée un peu partout en France, même il y avait des compagnies... des compagnies amateurs bretonnes qui l'ont reprise, cette pièce, enfin voilà. Et là, Bernard s'était professionnalisé, et donc, ensuite, il montait des spectacles pour les scolaires et tout, et un jour, il m'a demandé de travailler avec lui sur un spectacle scolaire, et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier dans le spectacle en professionnel, quoi. C'était en 93, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, moi j'étais artisan dans le coin, j'étais artisan dans le bâtiment. Donc j'ai fait le mécanique du bâtiment, et puis maintenant du théâtre et du conte. Voilà, c'est un parcours un peu... Voilà.
Dissonance,
Yves Durand,
sur Radio Centrafrique.
J'ai travaillé donc avec Bernard Coapé, puis ensuite j'ai travaillé avec le Théâtre de la Rampe à Montpellier, qui est une compagnie qui a plus de 40 ans d'existence maintenant. Voilà, donc je continue à travailler avec eux. Et j'ai développé aussi le conte en solo ou en duo ou avec d'autres personnes, quoi. Même en trio, puisqu'on a... On a repris un conte qui est le conte de Jean de l'Ours, qui est un conte très connu dans les Pyrénées. Enfin, on pourrait presque dire qu'il fait partie de la mythologie des Pyrénées, mais c'est un conte qu'on retrouve partout sur la Terre, comme tous les contes d'ailleurs. Et, alors, pour se définir conteur occitan ou pas, moi je me définis comme conteur ou comédien occitan, je me définis comme occitan parce que j'utilise cette langue, je l'aime bien, je l'ai entendue quand j'étais petit, elle a toujours sonné à l'oreille. Je me considère comme occitan, comme un corse se considère corse, un breton breton, un berbère berbère, sans, il y a pas de c'est pas un enfermement, c'est pas je suis de Saint-Afrique, hein, par exemple, on dit ça, mais ça veut pas dire que le reste du monde n'existe pas. C'est juste pour situer. Voilà, c'est là, il y a une boule bleue, enfin. Il y a un petit point, ben c'est là que j'habite, mais c'est pas. Et j'y tiens à cet endroit. J'y tiens, je veux pas qu'on le démolisse, je veux pas qu'on en fasse n'importe quoi. Et j'ai mon rôle à y jouer et j'ai un devoir aussi de le transmettre à ceux qui viendront après moi. Mais c'est plus dans cette idée-là que dans l'idée. Il y a que ça, tu vois, cette boule bleue, elle s'appelle Saint-Afrique. Non, elle s'appelle. Un petit point s'appelle comme ça, mais il y a le reste. Et le reste est important, parce qu'il est à découvrir. Et... Donc voilà, je me définis comme conteur occitan, parce que c'est une langue, c'est une tout ce que ça porte, une pensée, une culture, c'est... Moi, j'aime pas l'unicité des choses, l'unilinguisme, c'est comme si on mettait tous le même vêtement, si on portait tous la même... Le fait de nommer les choses différemment, c'est le fait de les penser différemment, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est d'autres approches autour d'un poème, voilà, on le voit sous différents angles, et ça c'est important, c'est peut-être un peu ce qui nous manque, hein, des fois même dans la façon de voir le monde, et même dans la façon peut-être d'apporter des solutions, on a l'impression que les choses sont toujours... linéaire et dans un sens, c'est-à-dire qu'on va vers une progression, mais on se rend compte que c'est pas vrai. Là actuellement, on se retrouve dans des situations où c'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est des choses qui ont été vécues peut-être il y a 1000 ans par là, je pense. Enfin, il y a eu un peu cette. L'histoire se répète. Aujourd'hui, on parle du droit des femmes et tout ça. Il y a eu des périodes où des sociétés, notamment dans la société occitane, hein, je ne veux pas faire non plus le... Mais il y avait des droits des humains, hommes, femmes, qui étaient plus importants qu'aujourd'hui, nous, on a... Il y a eu une régression à des moments, et puis de nouveau, ça réévolue, et révolution, et ainsi de suite. Donc, ça boulègue, hein, comme on dit.
Y en a un homme che spicciù, può divenire, y en a un homme che spicciù, può divenire, che spicciù, y en a un homme che spicciù, può divenire, y en a un homme che spicciù, può divenire, che spicciù, Picciù, ambi in pannetello grigio, iene faccino camiso ed arresto in mucadu, può divenire che spicciù, iene un nome che spicciù, può divenire, iene un nome che spicciù, può divenire che spicciù, della perdi non birghetto, iene faccino capetto ed arresto in capelù, può divenire che spicciù, iene un nome che spicciù, può divenire, iene un nome che spicciù, può divenire che spicciù.
Ambi in pannetello grigio, iene faccino camiso e del resto in mucadu, può divenire che spicciù, della pelle di un omiglietto, iene faccino capetto e del resto in capelù, può divenire che spicciù, d'una closca da bilano, iene faccino cabano e del resto in cabano.
Può divenire che spicciù, d'una closca da belano, iene faccino cabano, iene faccino cabano, può divenire che spicciù, iene un nome che spicciù, può divenire, iene un nome che spicciù, può divenire che spicciù, d'un aguglio despuntato, iene faccino agugliato, iene faccino agugliato, può divenire che spicciù, iene faccino agugliato, iene faccino agugliato, può divenire che spicciù,
può divenire che spicciù,
Yves Durand
sur Radio Centrafrique.
Et cette ouverture donc que tu as sur le monde occitan, sur cette culture occitane, fait que, comme Bernard Coapé entre autres, dans vos spectacles, vous mélangez les deux langues, et l'occitan et le français.
Ben oui, oui, ben de fait, puisque Bernard, il a appelé son disque bilingue, et ouais, moi je me considère comme bilingue, hein, parce que je passe d'une langue à l'autre sans problème. En plus, c'est quelque chose qui plaît bien aux gens. Et puis, pour moi, c'est un exercice très intéressant de sauter d'une langue à l'autre. Il y a des jeux, des fois. Moi, je me régale de jouer et ça crée des jeux de mots différents. C'est excitant de pouvoir jongler d'une langue à l'autre et sans que ce soit quelque chose de lourd et de... Par exemple, un texte, c'est bien quand il garde son rythme. Quand il est dit, souvent le fait de traduire simultanément, ça casse le rythme, ça alourdit les choses et tout ça. Et là, donc, c'est de trouver la manière de garder le rythme d'un texte sans le casser et de passer d'une langue à l'autre comme ça, et sans que ce soit gênant pour la compréhension. Moi, souvent, beaucoup de gens sortent du spectacle, quand je compte comme ça, en me disant... Il m'est arrivé de me retrouver à compter devant, je me souviens, un Alsacien qui était en maison de retraite ici à Sainte-Afrique. Je ne compte pas que pour des gens qui sont en maison de retraite. Hein, mais, et le gars, à la fin, et j'avais fait pratiquement tout en occitan, il m'a dit, j'ai rien compris, mais j'ai tout suivi. Et ça,
c'est beau.
C'est bien, ça fait du bien. Et je me dis, voilà, là ça marche. Et il faut faire confiance aux gens. Les gens, ils peuvent comprendre plus... Et surtout les enfants, ils peuvent comprendre beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, quoi. Moi, je le vois, les adultes, des fois, on s'arrête sur un mot, alors que les enfants prennent le global et puis, fighter.
4 ou 5 000 ans plus tard, per uno peiro es uno pusco de ten, c'est une poussière de temps pour une pierre. Sur ce gros bloc de pierre bleue lancé à travers l'univers et qu'on appelle la Terre, à 43 degrés de latitude nord et 2 degrés de longitude est, à la frontière de deux terres, la Ruzzo et la Negro. Sur cette colline, une peiro es jagudo. Et cette pierre couchée porte des signes. Près d'elle, un enfant se lève. Il s'étire. Et là, quand il s'étire, on peut voir au niveau de sa gorge une cicatrice. Il est nu. Il est tout seul. Il semble complètement sauvage.
Et c'est toi, on parlait occitan tout le temps ?
Il n'y a pas eu de transmission directe comme ça. Il n'y a pas eu de... Mes parents le parlaient avec les voisins. Entre eux, non, ils parlaient français. C'est comme beaucoup de gens, hein, c'est une langue qu'il a fallu que je me réapproprie, hein, ça a été une petite démarche quand même de volontaire d'aller chercher ce qui me manquait là-dedans. Il a fallu se réapproprier. Comme beaucoup de gens, c'est une langue qui a été abandonnée par amour. C'est-à-dire, on a tué cette langue. Alors, il y a effectivement l'histoire avec l'Empire français qui a... on ne refait pas l'histoire, mais avec tout ce qui a été dit autour, il fallait, pour réussir, il ne faut pas parler patois, il faut apprendre le français, et puis que ça. Comme aujourd'hui, on dit à nos enfants, pour réussir, il faut apprendre l'anglais. Le problème, c'est que si on continue comme ça, si on continue comme ça, bientôt on parlera le globige, donc c'est même pas l'anglais. Et on le voit très bien, on s'anglo-saxophonise complètement, les prénoms on a des prénoms anglais, américains qu'on voit dans les feuilletons. C'est pas excitant, quoi, ce futur-là. On n'est même plus capable, même le français n'est même plus capable de prendre à son compte les mots qui nous arrivent de l'anglais. C'est-à-dire, par exemple, fuel, jusque dans les années 60, on écrivait fuel, F-I-O-U-L. Mm-hmm. Maintenant, un mot anglais, on le, Les Espagnols, peut-être, ils ont cette capacité, hein. Enfin, ils ont plus confiance en leur langue, dans le sens où, par exemple, le mot leader, ils l'ont écrit à leur façon. Mm-hmm. Nous, on l'écrit L-E-A-D-E-R, et on dit le leader. Alors qu'on devrait dire, enfin, comme c'est écrit, on dirait le leader. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on perd confiance dans notre langue, dans la capacité qu'elle a à être au monde, quelque part. Mm-hmm. Donc moi je trouve ça, c'est un peu dommage, quoi. Je suis comme beaucoup de... Enfin, je m'intéresse aux langues, ça m'intéresse les langues, parce que c'est de cette façon. Et ouais, je me fais un peu de soucis par rapport au français, parce que c'est une langue que j'aime bien, qui est la mienne aussi, hein. Je suis bilingue, donc... et voilà, ce serait bien... ça ne veut pas dire d'exclure, mais... Avant que ce soit trop tard, quoi, de se dire, c'est peut-être intéressant de se poser la question, où on va, voilà. Mais c'est bien, on se pose sur le bord d'un chemin, et puis on réfléchit, puis voilà. Yves Durand.
Sur Radio Centrafrique.
On a tellement dit aux gens que ce qu'ils parlaient, et puis c'est rentré dans la tête, c'était le patois. Et moi, des fois, je trouve que même presque insultant, quand il y a des, entre parenthèses, intello occitanistes qui disent ouais, non, mais c'est pas le patois, c'est l'occitan. Et oui, mais le gars, il a toujours appelé ça, enfin, la personne a appelé ça toujours patois. Mmh. Et il y a mis de l'affect dedans, de l'affectif. Donc, Yves Rouquet, il disait. Le patois, c'est du vrai occitan, ou l'occitan, c'est du vrai patois. Enfin, voilà, c'est juste une dénomination. Voilà. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, avec Claude Alranc, là, qui est un metteur en scène, et qui travaille beaucoup, enfin, qui fait de la recherche au niveau du théâtre et tout ça, et qui parle d'ethnopsychiatrie, et notamment cette maladie, du mal à se définir, et une maladie même qui fait qu'on se referme. Je pense que c'est un peu la maladie de tous les peuples qui ont été colonisés et tout ça, c'est que il y a eu un moment donné, il y a cette perte de confiance et qui fait que quand il y a perte de confiance, on se referme. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, ça fait peur. Tout ce qui oui, mais moi ma langue, c'est pas ouais, mais c'est pas la même que celle du voisin, c'est la mienne, c'est et moi, je pense, c'est des choses qu'on retrouve partout, chez tous les gens comme ça, les peuples qui ont reçu un coup sur la tête, quoi. Et voilà, c'est difficile de s'en remettre.
Une soupe et une martin, strapper et une raquin, ce qui mérite de pizzour et qui fasse une loucantou. A copa pas un an, yo te voli mansan, et se voit pas mourir, non, vertat voli en aussi.
Dioi menz uno.
Lo sole l'esclairo mai che la luno.
E dioi menz dos.
La carneta es più molo che los.
Dioi menz tres.
E un buon frase ne fa tutto un bar a tres.
E dioi menz catre.
E tu pies pa più pizzo che matre.
Dioi menz cinque.
Pa mai esse cambo grosso che cambo prin.
E dioi menz sieis.
La giardetta es pla men forchi l'utrisieis.
Dioi menz set.
E no blana mai de brinchi no serp.
Dioi menz ben.
E pori cruza mai de gusco un pori keit.
E dioi menz no.
Da quello che cante es anche lo che ha fazio. In su un per un muissur, anche un treritza cu. Che meria tutta che fa su ma proprio. pietat, a cop pot pas anar, jo te vol imançar, e se voi pa morir, no me surt el boli a usir.
Ane, jo hi men uno.
Fou vestir un brapostel din la luna.
I jo hi men dos.
Que tot som bova a Toulouse amb un triós.
I jo hi men tres.
I a de luz sobre la muntanya d'anglès.
Jo hi men quatre.
Un cinema és pla pipi al que l'un teatre.
Jo hi men cinc.
I no l'ebre és la fumo d'un lapí.
Jo hi men sieis.
I la pruna és la fruita dels cirlleis.
Jo hi men set.
Un pisurus és tot un aquel que perd.
Jo hi men veit.
Palma i fa l'amor pel sol que n'és un lei.
Jo hi men nou.
Cal tot sometre la carreta van los bions.
Dissonance,
Yves Durand,
sur Radio Centrafrique.
Ben, c'est vrai que le conte, souvent, ça commence par « Il était une fois ».
Escuto, te vou contar une historia. Un copero, un peirieto, stavo la peiro aquí din la peirieiro. Erro a la raccio del soleil e lo fagio Suzanne souffrir la peiro.
Et c'est vrai que rien que le fait de commencer « Il était une fois », ça ramène à un temps passé. Et souvent, enfin, c'est quand même difficile de raconter une histoire dans un temps futur. Enfin, on peut parler au présent, au passé, mais au futur, c'est plus difficile de... une fois il sera, on peut très bien le dire. Mais donc, bon, il y a cette tradition-là, mais non, ça parle quand même de... On peut parler de sujets... d'actualité dans les contes.
Tu le fais toi par exemple dans...
Oui. Ouais. Moi souvent j'aime bien faire des références à l'actualité. Et puis ce qu'il y a. Mais des fois il faut se méfier parce qu'on peut aller n'importe où et puis dire n'importe quoi. Et puis ouais. Ça peut être casse-pipe ça.
Plus que l'actualité, le présent, quoi.
Ouais. Voilà, mais le présent. Et ce qu'il y a, c'est que peut-être c'est quelque chose qu'on a perdu ou qu'on perd, ou qu'on a tendance à perdre, ou qu'on voudrait nous faire perdre. C'est de se dire que parce qu'on commence par « Il était une fois » et que dans l'histoire, on le voit très bien avec les différentes réglementations qu'il y a eu au niveau de l'éducation nationale, des ministres qui ont dit « Ouais, bof, l'histoire, c'est pas la chose la plus importante, ni la géographie, enfin, bon. » Mais justement, peut-être c'est parce que c'est pas si important que ça qu'on veut le supprimer, mais souvent les choses qu'on supprime parce qu'on trouve que c'est pas si important que ça, c'est les choses les plus essentielles. Ouais. On le voit très bien, s'il n'y avait pas de couleur sur la Terre, peut-être, je sais pas, on serait peut-être tous suicidés, quoi. Enfin, c'est des choses comme ça qui paraissent pas importantes, mais une histoire, l'importance qu'il y a, c'est que qu'elle se passe dans le passé ou même dans un futur, d'ailleurs même on le voit très bien, hein, tous les films fantastiques de science-fiction et tout ça, c'est la trame du conte, hein, traditionnelle, hein, c'est la guerre des étoiles, et ils ne sont pas allés chercher dans le futur quelque chose qui existait déjà. Et donc, une histoire, elle a un impact, même qui fait que il y a des gens qui entendent des histoires, hein, et qui, peut-être après, hein, moi je le vois, hein, ça m'est arrivé d'écouter, moi j'ai un ami là qui est conteur, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est
qui s'appelle
Serge Maourat, et c'est un gars, moi je suis allé chez lui quand on avait travaillé à un spectacle de Jean Delours avec un musicien et une plasticienne, il nous avait hébergé chez lui, et puis un jour j'étais parti avec lui dans la montagne, il me racontait sa montagne et tout, et il me racontait la légende, le trou des fées, des choses comme ça. Mais c'est d'une actualité, dans la philosophie qu'il y a derrière, enfin tout le qui est d'une actualité, qui fait que tu viens d'écouter une histoire, hein, et tu te dis, ah ouais, d'accord. Même si on t'a raconté une histoire avec un vieux décor, où tu avais les trucs invraisemblables et tout ça, tu te dis, ouais, c'est moyenâgeux, c'est je sais pas quoi. Mais n'empêche qu'après, tu es là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ouais, mais le conte, justement, et d'ailleurs, ce qu'on pourrait reprocher à un moment donné, s'il y a eu tout ce qui venait de la famille et tout ça était un peu considéré comme quelque chose de c'était l'obscurantisme. Et on a tout balancé avec ça, hein, sous prétexte-là, le côté des croyances, des religions, de tout et tout, même les contes. Alors que les contes, c'est quand même, c'est l'école d'avant l'école, quoi, hein, c'est une façon de transmettre des choses, des valeurs, des symboliques, des savoirs, des façons de se comporter. Dans le conte, celui des trois enfants qui part à la recherche de l'anneau d'or, par exemple, les deux aînés se comportent mal envers la fée qui mendie sur le bord de la route, il leur arrive qu'ils vont au fracas. Mmh. Alors que le dernier qui part et qui a un comportement humain
ouais.
il reste humain et il grandit dans son humanité, puisqu'à la fin il se marie avec la fée et il devient le roi. C'est symbolique tout ça, mais c'est un apprentissage. L'enfant qui entend ça, et l'adulte, parce que souvent on dit le conte c'est pour les enfants, mais déjà on a un avantage sur les enfants, nous les adultes, c'est qu'on a été enfant, alors que les enfants ils n'ont pas encore été adultes. Et ça, on l'a été et on l'est toujours, puisqu'on l'a été. Il y a une tout part de nous. C'est aussi beaucoup pour les adultes, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'un conte, on peut le lire.
Il y a plusieurs niveaux de lecture.
Et moi, je vois avec les gamins, moi, je me régale quand, par exemple, moi, j'aime bien mettre du sanguinolent dans les contes. Surtout quand je suis devant des enfants. Au début, je n'osais pas trop. Et un jour, c'est un copain qui est enseignant. Et il me dit, mais vas-y, ils adorent ça. Okay. Et c'est vrai. Voilà, donc ça dit des choses. Ça n'a pas besoin spécialement d'être balancé dans le futur. Et il y a de la création. Il y a de la création là-dedans. Mmh. Moi, je vois le truc de Jean de Lourdes qu'on a fait. On a repris le conte de Jean de Lourdes. Il y a un musicien, on parlait tout à l'heure de la création, enfin, du fait d'être dans les pantoufles et les sabots. Moi, je travaille avec Thomas Baudouin qui est du Béarn là-bas. Et Colline Hato qui est dans le Lot, elle est plasticienne, elle fait de la rétroprojection avec et elle crée des images comme ça pendant le conte. Et lui, il crée la musique avec des instruments traditionnels. Alors il mélange tous les instruments. Il y a du bol tibétain, il y a du support de CD pour faire de la percussion. Il y a du tum tum, il y a de la flûte à trois trous. Qui ressemble au galoubet de Provence, qui est l'instrument du Béarn. Voilà, et c'est des musiques avec il y a l'ordinateur, enfin voilà, c'est un peu comme le spectacle de la Donne des Peyres, la Dame de Pierre, sur les statues menhirs et l'enfant sauvage, où je travaille avec un musicien qui travaille avec l'ordinateur, il enregistre des sons, voilà, c'est. Et puis sur la pierre. Hein.
Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le fait que ce soit à la fois qu'il ait su mélanger l'histoire et capter l'attention avec le petit côté romancé à certains moments. Je trouve que c'était vraiment très très bien parce que du coup on suit bien, on passe d'une période à l'autre. Et puis à la fois c'est pas qu'intellectuel, quoi. Il y a un plaisir, on part un peu. Quoi. Voilà, quoi. Et ça permet vraiment, ça aide au voyage.
Arrêtez! Nous n'avons rien à manger. Mais plutôt que de se battre.
J'ai beaucoup aimé aussi les symboliques. Parce qu'il y a des choses de rivalité, la soupe au caillou, la soupe du partage. J'ai aussi aimé l'histoire de l'ours, l'histoire de la différence. Et tout ça, je trouve que c'est dit avec un petit peu des deux langues, parce que je ne maîtrise pas trop l'occitan. Mes grands-parents le parlaient, mais mon papa est picard. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de symboliques et j'ai beaucoup aimé.
Des fois, Itard, il crie. Il crie de joie. Bravo, Victor !
Avec les fonds sonores qui sont derrière, c'est vrai que ça fait un ensemble qui est quand même assez sympathique et agréable à entendre.
Ah oui, la musique, ouais, c'est génial. Ouais. Ah oui, c'est Pierre qui a un son mais vraiment particulier, mais qui est très fin, très beau. Quoi, hein.
Dissonance,
Yves Durand,
sur Radio Centrafrique.
Donc ça, c'est la nouvelle génération, on va dire, des artistes occitans. Mmh. Il y a eu, en résumé, donc, il y a eu Jean Boudou. Enfin, c'était en résumé à ma sauce, hein, donc
oui,
voilà.
Oui.
Hein. Après, il y a eu, je dirais, l'époque des Marti, Mans des Brèches, Los de Nadao, et puis il y a eu la Talbel, la Comédia de Locke, Alma Carrel Show, Bernard Coapé, et puis récemment, On découvre Arnaud Kahn, La Mal Coiffée, Florent Mercadier, Monique Burg et Yves Durand. C'est une continuité ou alors c'est différent? Comment tu te situes là-dedans?
Alors, bien sûr que tout le monde veut tuer le père, hein. On parlait tout à l'heure de l'émancipation, et bien sûr qu'on aurait tendance à dire « ouais, mais c'est pas pareil ». Si, c'est pas. Enfin, moi je crois que c'est la suite logique des choses, c'est une suite, hein, comme beaucoup d'artistes de culture française ou de langue française se prétendent de Brel, de Bachung, de Gainsbourg, de Brassens, de Ferré ou tout ça. Ben ouais, moi je suis imbibé de tout ça, quoi. Hein. C'est ces gens-là qui m'ont fait. Moi c'est Marty, c'est Claude Marty qui m'a fait connaître la chanson, l'Occitan, qui m'a fait prendre conscience un peu de cette langue et cette culture. C'est Boudou au niveau des contes, c'est. Voilà, c'est. Et c'est la continuité, mais bien sûr que c'est dans l'air du temps. Enfin, c'est avec les musiques d'aujourd'hui, avec l'air du temps. Et puis après, ça c'est dû aussi aux rencontres, aux influences des rencontres. Moi, j'ai travaillé. Voilà, il m'est arrivé de travailler. J'ai travaillé avec un groupe là qui s'appelle Mosaïque. On avait fait un petit conte qui s'appelait Entre deux rives d'une mer, entre Pyrénées et Atlas et Pyrénées. C'était la musique arabo-andalouse. Et, le groupe s'appelle Mosaïque. Où on a fait un spectacle où il y avait plusieurs influences berbères d'Afrique du Nord et des musiciens donc qui jouaient et c'était très intéressant de mélanger ce mélange-là. Donc c'est une suite de logique de l'ancienne, enfin l'ancienne génération, parce qu'avant Marty et tout ça, il y en avait d'autres. Hein, c'est la même, c'est une suite comme ça, c'est une langue qui veut, enfin une langue, une culture qui veut pas mourir et qui continue et qu'il y a toujours, des rejets. Hein, c'est...
Dissonance
sur Radio Centrafrique.
Est-ce que ça te limite ton champ d'action? Est-ce que tu peux pas aller jouer à Paris, dans notre pays?
Non, ça limite pas, non, puisque, mais par contre, ça veut dire qu'il faut créer des réseaux qui sont pas les réseaux officiels. Par exemple, nous, on le voit au niveau du théâtre, par rapport même dans la partie occitane, il faut qu'on crée des réseaux, parce que les réseaux officiels, ça ne les intéresse pas. Ils n'en veulent pas. Dès qu'on met langue régionale, c'est... Moi, je me suis retrouvé dans des situations vraiment où tu as envie de balancer des baffes, quoi. Ouais, avec des gens du milieu culturel qui sont vraiment méprisants, quoi. Méprisants. Moi, par exemple, j'ai fait partie d'un truc là au niveau d'un collectif au niveau de l'Aveyron, c'est la coordination occitane de l'Aveyron, où justement on est allé interpeller les élus pour qu'il y ait une transmission, un apprentissage auprès des enfants. On a une association qui fait ça sur le département, qui intervient dans les écoles. C'est très difficile, hein, mais. Bon, parce que spontanément, les élus, ils vont pas là-dessus. Les gens considèrent que c'est quelque chose qui devrait être qu'on devrait mettre à la poubelle. Donc, quand on rentre chez quelqu'un, moi, je connais personne qui met la poubelle de la porte d'entrée, quoi. Enfin, ou alors, c'est juste pour aller les sortir, mais vite, on les balance. Mais, donc, on considère que c'est quelque chose qu'il faut pas montrer. Donc, les élus, et comme plein d'autres gens, donc, il faut pousser. Ça veut dire qu'il faut, c'est pas acquis, il faut le fabriquer, il faut l'inventer. À la fois c'est intéressant parce que on est obligé d'inventer, de trouver, c'est excitant quelque part. C'est un peu comme, des fois je me dis, putain, ça doit être triste la vie de quelqu'un qui n'est pas militant quelque part. Parce que être militant dans la vie, c'est déjà être militant de la vie, pour la vie. Donc, c'est se bouger les fesses, c'est voir les choses, essayer d'en inventer, trouver des chemins et tout ça. Et moi là aussi, tout ça, ça fait partie de cette chose-là. C'est la vie, quoi. Voilà, il faut pas rester assis regarder passer les choses. Il faut y aller. Tant pis, on se trompe des fois, hein. On se trompe. Hein. Si on le fait avec humanité, enfin dans l'idée de se grandir et de faire grandir, copain, moi je crois qu'on peut pas se tromper de beaucoup.
Violence, ça va de pair. Les deux se balancent, paradis en fer.
Dissonance.
Yves Durand.
Sur Radio Centrafrique.
Justement, tu parles de se grandir. Il y a un magnifique texte de Daniel Lodo, du groupe La Talvera, là, qui fait un poème qu'il aime en musique, L'Ume au País. Alors, je vais le dire en français parce que je ne suis pas doué en occitan, mais il dit, à propos de l'Occitanie, mais c'est aussi à relier à ce que tu dis par rapport à se grandir, mon pays est partout où sont les privés d'être, sans papier ni honneur, les sans maison, les sans terre. Si vous saviez mon pays, il n'a ni nom ni frontière, il s'étend dans les vers d'une folle épopée.
Si sabias mon pays, a ni nom ni frontière, di l'Uber s'expandis d'une folle épopée, c'est trapo pescami, di l'Ussan de l'Aspero, di l'Ucao del Rasi, di la mar dell'Albiero, se sabias mon paese, se scompe la sinestro, di la flor che spelis, di l'ucor della sbestio, di l'ombro che blanchis, di l'auto che respeglio, di la dussur di unis, un lupus in ofelio.
Voilà, moi c'est un peu cette façon de voir les choses, de voir ce monde-là, de voir le monde. C'est, enfin, ou du moins comme j'aimerais qu'il soit, j'aimerais le voir, et pas du tout dans un repli identitaire comme le sont les fracassés du crâne, là, enfin, les fachos. Mais le problème, il y en a partout, des fachos. Et alors, il faut pas oublier quand même que ça existe, ça, chez l'être humain. Ce côté, c'est le côté sombre. On parlait de Star Wars de tout à l'heure. Le côté sombre. Mais il faut pas non plus le grandir trop. Et parce qu'il y a quand même une chose qui est dangereuse, c'est la peur. Qui nous fait faire des conneries. Et s'il y a trop de peur, on se bloque, on se fige, on n'avance plus. Ça existe bien sûr, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais par exemple, je me souviens, j'ai participé à l'organisation des manifs qu'il y a eu là sur Carcassonne, Toulouse, Béziers. Et à Béziers, il y a eu un moment...
Des manifs pour la langue occitane.
Pour la langue, ouais, pour la langue occitane, voilà. À Béziers, il y avait à peu près 20 000 personnes. Et à un moment donné, moi, je me baladais comme ça. Et puis, il y avait un endroit, il y avait des mecs blocs identitaires. Et ils étaient 3 ou 4, je sais pas. Et puis, ça a frité un moment. C'est, c'est parti à la baston, parce que, voilà. Mais, en gros... On était 20 000, et ils étaient 3. Et c'était très relatif, quoi. En plus, l'autre fois, là, j'écoutais une émission, c'était à France 3, ils avaient fait une émission sur les fachos là, de Toulouse. En plus, voilà, souvent, on parle de ce côté-là, des identitaires et tout ça, mais les mecs, ils parlaient même pas l'occitan, donc voilà, c'est... Mais il y en a des fachos hein, aussi, hein, bien sûr qu'il y en a, comme partout. Mais le Front National, il est partout. Hein. Partout, il y en a des gens qui sont intolérants, qui veulent pas de l'autre, qui ont peur. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont peur, c'est qu'on a peur. On a fait une création là au mois de octobre. On a travaillé septembre, octobre, novembre à fond, sur la création de spectacle qui est le manège de Petit Pierre, qu'on appelle Pays Répétite en Occitan, qui est l'histoire d'un. Ça parle ici dans le coin, puisqu'il y a le musée des arts buissonniers à Saint-Sever, l'art brut et Pierre. Petit Pierre, c'est le Pierre Avezard qui a créé un manège qui est visible dans un lieu qui s'appelle La Fabuloserie. C'est à Dissy, à côté de Montargis. Et c'est l'histoire de ce monsieur qui est né complètement difforme, sourd, muet. Il a été très peu de temps à l'école, c'est sa sœur qui lui a appris l'école. Et il y a une Québécoise qui a repris son histoire. Donc ce gars, il était tout difforme. Il a été embauché comme garçon bâché dans une ferme. Il a passé toute sa vie à construire un manège. Un manège avec des bouts de tôle, des récupérations et tout ça. Et c'est fabuleux. D'ailleurs, ils ont appelé le lieu, ils ont remonté le manège dans La Fabuloserie. Dans ce spectacle, on va le tourner dans les écoles en Provence, là, au mois de février. Alors, j'ai pas les dates précisément. Donc, c'est en Provence. S'il y a des gens qui sont en Provence, ça va être pour les scolaires. Donc, on va le jouer en journée pour les scolaires. Après, des dates précises, j'en ai pas, là. On va jouer... je vais compter, alors ce sera des dates sûres, c'est 14 et 15 octobre 2017, avec le département de Haute-Garonne, dans les médiathèques de la Haute-Garonne. Des dates précises, j'en ai pas là, comme ça.
Mais on peut trouver sur un site.
Mais alors, voilà, le mieux, si on veut suivre l'actualité, c'est d'aller soit sur le site de Cervantes, cervantes.com. Cervantes.com, c'est basé à Aurillac, c'est une coopérative,
une scope,
voilà, qui fait tourner des groupes comme Dubartas, La Mal Coiffée, Djebaletti, Arnaud Kans, Séverine Sarias, Monique Burg et Florent Mercadier, moi-même, Marie Coum aussi. Donc voilà, c'est là-dessus, il y a l'actualité, Cervantes.com, et puis le théâtre La Rampe TIO, à Montpellier, où il y a l'actualité aussi du théâtre. Voilà. Actuellement, on joue à Molière, Molière Doc, c'est une pièce de notre Molière national qui a été traduite en occitan par Marcel Esquieu, qui nous a quittés en même temps que Yves Rouquette, qui était un gars qui faisait beaucoup de traductions et qui a traduit le texte de Molière en occitan, puisque dans. Le texte de Molière, c'est Monsieur de Pourceaugnac, qui est une pièce qui est pas très connue, mais dans laquelle Molière a lui-même écrit en occitan, puisque c'était à la période où il était à Pézenas, et il a repris il y a un personnage qui s'appelle Lucette, et dans le texte original de Molière, c'est écrit en occitan à la méthode de Molière, il n'a pas écrit en graphie normalisée, mais il a écrit, et donc il a écrit en occitan, voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un bourgeois de Limoges qui monte à Paris, et là, on a inversé la chose. Et donc, c'est un peu révélateur de cette idée de la personne qui vient, de quelqu'un qui vient de l'étranger un peu. Ça révèle différemment les choses et ça met sous un autre relief, voilà, cette idée de l'accueil de celui qu'on ne veut pas accueillir et tout ça, enfin bon, voilà. Et puis, un petit peu pour parler, par rapport à la création du spectacle de Petit Pierre, là, Peyre et Petite, c'est vrai que ça fait l'autre fois, on en parlait avec le copain là, avec qui on joue, là, on est deux sur le spectacle, on a fait travailler bien d'autres personnes, hein, musiciennes, mais... Et ça fait trois spectacles qu'on fait sur... alors, il y a eu Peyre et Petite, il y a eu Le Bossu, donc pareil, l'histoire d'un bossu qui voulait faire le Tour de France, c'est un conte. Et on avait aussi écrit, on avait fait une co-écriture là, sur ce spectacle, sur Le Loup. Et on se disait, chaque fois c'est sur des indésirables, enfin, ou les gens qui n'ont rien pour... et voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, il y a cette idée-là. Il y a cette idée derrière. Et sans ces gens-là, le monde il serait pas comme il est. C'est des gens qui amènent le monde, quoi, aussi.
Belle idée généreuse. Merci, Durand.
Merci.
La chronique poélitique d'Elsa Dauphin. Il fait beau ce dimanche, un temps à se promener à travers champs et bois. Vous voilà parti. Heureux de ce soleil d'hiver qui fait scintiller le givre dans l'herbe et dans les arbres. Tout en marchant, vous laissez dériver vos pensées au rythme de vos pas et des pépiments des oiseaux. Vous ne prenez conscience du bruit parasite que lentement. Tout d'abord, un cri sourd qui monte dans les aigus parfois, un jappement. Plus attentif, vous percevez maintenant la symphonie discordante de la meute. Les aboiements des chiens se font plus forts, plus insistants et vont crescendo, à l'unisson des cris des hommes. Très vite, un premier coup de feu, suivi d'un deuxième à quelques secondes d'intervalle, puis d'autres en rafale. Vous imaginez la fuite éperdue d'un chevreuil ou d'un sanglier et espérez qu'il aura trouvé refuge à l'ombre du bois, qu'il aura semé ses poursuivants, dont les fusils, véritables armes de guerre, ne leur laissent que peu de chances de survie. Chaque année, en France, la chasse tue 30 millions d'animaux et en blesse d'autres millions, dont on ne peut faire le compte précis. Cela s'appelle un carnage. Parfois, des balles ricochent, se perdent, transpercent divers obstacles et finissent leur course dans le mur d'une maison, dans une chambre ou un salon. Certaines se figent dans un corps humain. 146 accidents au cours de la saison 2015-2016, dont 10 mortels. Les dommages collatéraux, en quelque sorte, d'une guerre que les hommes font aux animaux sauvages, une guerre qu'aucune nécessité ne motive. Vous ne saurez pas ce qu'il est advenu du chevreuil ou du sanglier. D'ailleurs, vous avez écourté votre promenade, l'air n'avait plus le même goût. En rentrant chez vous, à pas lourds, vous vous demandez d'où provient ce besoin de tuer. Ce qui anime le cœur et l'esprit de l'homme qui tient le fusil quand il a sa proie dans son viseur. La satisfaction, peut-être, de pouvoir mettre à mort un autre être vivant, sans se soucier de la souffrance qu'il va lui infliger, et signifier ainsi sa domination sur les autres espèces. Durant ces 4 derniers siècles de son histoire, l'homme occidental s'est arrogé le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une ce qu'il retirait à l'autre. Il a alors ouvert un cycle maudit, car la même frontière qu'il faisait constamment reculer a servi à écarter des hommes d'autres hommes au profit de minorités toujours plus restreintes. Claude Lévi-Strauss, dans ses lignes, fait référence à l'esclavage, au colonialisme, au camp d'extermination nazi. Cette frontière tracée entre l'homme et les autres espèces vivantes a été reportée au sein même de l'espèce humaine, rendant ainsi possible les crimes contre l'humanité. Vous êtes amer, en colère aussi. Vous ouvrez un recueil de poèmes à la page de La mort du loup. Alfred de Vigny y déroule le terrible récit d'une chasse faite à ce mammifère qui, transpercé de balles et de coups de couteau, et, sans daigner savoir comment il a péri, en refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce qu'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord remonté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurs, sans parler.
Vous pourrez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez aussi des liens qui complètent cette émission ainsi que les références des musiques et chansons entendues. Cette émission sera rediffusée lundi 30 janvier à 20h et mercredi 1er février à 11h. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
Sur une boîte de conserve, sur un pigeon d'argile, vingt dieux, c'est pas pareil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut de la chair tiède avec du sang vermeil. Pour les chasseurs, les vrais, il faut que ça palpite de plumes et de ramages. Il faut que ça ait peur, il faut que ça se sauve. Bref, que ce soit sauvage. La chasse, c'est le défoulement national, c'est la soupape des frustrés. La chasse, c'est la guéguerre permise aux hommes en temps de paix. Chaque mois de septembre, le plumet au chapeau, ils partent comme en 40.